Bonjour à tous, je crois que c'est le fond. C'est bon. Bonjour à tous, je remercie la ville de Toulouse et l'AHR et HEDN de m'avoir associé à cet événement. Voilà, je n'ai pas été retenu par les classes ce matin, même si je suis venu en train. Toulouse réunit deux de mes passions, c'est-à-dire le rugby et l'aviation. Donc je suis content de pouvoir être associé à cet événement. Et donc je remercie l'organisateur principal. Alors il parlait du grand ancien, je me demandais si c'était moi. Alors c'est Albert Caco, donc je vais vous parler de ce personnage. Alors c'est une biographie et je vais me centraliser sur la période de 14-18 par rapport au sujet. Voilà, donc Albert Caco est un ingénieur, donc l'armée de l'air est une armée technicienne. Donc moi je porte des lunettes, j'ai une formation universitaire sciences humaines, donc je ne peux pas être pilote. Donc c'est plutôt une formation scientifique. Donc il y a la polytechnique. Alors je vous parle d'abord de la jeunesse avant 14, donc la première partie. Ensuite, donc son expérience militaire. Il débute la guerre en étant capitaine aérostier, il est mobilisé en 1914. Il sera commandant en 1918. Et ensuite, 1918, dernière année de la guerre, il est appelé à de très hautes responsabilités à 36 ans. Il devient directeur de la section technique de l'aéronautique. Voilà. Donc en histoire, on aime bien les plans en trois parties et avec la symétrie, trois sous-parties. Donc c'est un plan qui va être déroulé au fur et à mesure, donc à peu près 3 minutes par partie. Donc c'est d'abord un intérêt profond pour l'aéronautique. On peut se demander comment Albert Caco découvre et s'investit dans ce domaine. Au départ, sa formation ne le prédispose pas à la troisième dimension. Voilà, donc il entre à l'école polytechnique en 1899, il a 18 ans. Donc il est doté d'une grande facilité d'assimilation, il saisit les données réelles, les problèmes techniques pour les résoudre. Voilà. Donc il veut résoudre les problèmes en les comprenant bien. Il fait un service militaire en 1901 à 1902. Il est envoyé au régiment du génie. Au début du XXe siècle, vous avez deux armes de l'armée, c'est-à-dire de l'armée de terre, qui s'intéressent au plus léger que l'air, puis après au développement du plus lourd que l'air, c'est le génie et l'artillerie. L'artillerie, ça fait en utilisant un ballon, vous prenez de l'altitude et vous pouvez réguler les tirs de l'artillerie car vous voyez où se tombent les obus. Et le génie, c'est plutôt pour l'infrastructure, pour pouvoir reconnaître où se trouve l'adversaire en faisant de l'observation ou de la reconnaissance. Donc il est envoyé à Chalais-Meudon, entre la région parisienne, et depuis à peu près les années 1870, vous avez l'armée qui a développé un centre de recherche avec les ballons, puis après avec l'aviation. Donc il découvre des ballons sphériques, captifs, ils sont reliés au sol. Ils ont été développés par le colonel Charles Renard, qui, comme Clément Adair et comme le capitaine Ferber, fait partie des personnes qui essaient de développer les potentiels militaires de l'aérostation. Donc, lorsqu'il arrive en 1901-1902, il découvre ces ballons qui n'ont pas tellement été modifiés depuis la bataille de Fleurus. Donc, c'est des ballons gonflés à hydrogène qui sont reliés au sol. Donc, là, c'est un modèle. Comme on peut voir en 1914 à la mobilisation de la guerre. Donc Albert Caco est assez étonné, il constate que les techniques aéronautiques n'ont pas tellement évolué depuis l'origine. Après son service militaire, donc de 1902 à 1905, pendant 3 années, il est élève ingénieur à l'École nationale des ponts et chaussées. Et là, il découvre vraiment sa vocation pour la construction. Donc la construction avec des ouvrages en béton armé, en partie avec des ponts. Donc là, une des spécificités d'Albert Caco, c'est qu'il va, durant sa carrière, s'intéresser à deux domaines qui n'ont au départ pas forcément un rapport. Donc la réalisation d'ouvrages en béton armé, les constructions aéronautiques. Alors même s'il y a un lien entre les deux, donc on le voit aussi avec les biplans, donc les appareils, de partir de la structure des ponts. Ainsi, ça permettait d'avoir une structure à la fois rigide, assez légère, pour pouvoir permettre à un avion de voler par rapport au monopole. Donc quelques années après, en 1911, il présente un mémoire sur la locomotion aérienne et l'utilisation probable dans l'avenir. Et là, un peu comme Clément Adair, il est assez visionnaire, il fait en quelque sorte de la prospective de la vieille technologie, il voit quelles sont les capacités à l'époque de la technologie et essaie d'anticiper sur leur capacité. Donc il écrit un texte qu'il présente, alors il parle de développement des aérodromes, et aussi il parle de notions qui à l'époque sont totalement futuristes, on pourrait penser à science-fiction. Il a une sorte de prémission par rapport au radar et à l'utilisation future du GPS. Donc je le cite. Parallèlement au développement des ports, la technique du point en aéroplane devra se préciser. Dès que le navire aérien disparaît dans les nuages, le mécanicien conduit à l'aveuglette et ne peut s'en remettre qu'aux indications très insuffisantes de la boussole. Là encore, il faudra créer des organes nouveaux, comme des phares hertziens, qui puissent agir sur les récepteurs de télégraphie sans fil et renseigner le pilote sur sa position. Sans ces ports et sans ces phares, le navire aérien ne pourra sortir que de jour et par beau temps, et ne pourra donc assurer aucun service régulier. Ainsi, en 1911, il anticipe, par exemple, sur les développements technologiques opérés par les Britanniques en 1937 vont participer à leur victoire durant la bataille d'Angleterre en 1940. Alors ça, c'était la théorie. Maintenant, on passe à la pratique. Donc, il est mobilisé en 1914. Alors non, il a plus l'âge de combattre en première ligne. Le 1er août 1914, donc c'est la mobilisation, vous avez pu voir l'affiche de mobilisation générale montrée par Gaëtan Sinko. Donc il est capitaine à la 21e compagnie de récession. Là, vous le voyez en photo, donc on est en 1918, il est commandant. Capitaine d'officier subalterne, comme moi, et après vous êtes commandant, vous passez dans la caste d'officier supérieur. Donc il est mobilisé, il est envoyé au combat devant ses hommes, il participe au combat sur le front de Rennes, donc j'ai la survie, déjà une performance pendant les deux premiers mois de conflit. Et là, il s'aperçoit que les matériels confrontés à la réalité du terrain ont des carences qui manquent d'édition. Donc ces carences ont des conséquences sur le déroulement de l'édition. Avant, pour les carences pour l'édition, il s'aperçoit que les ballons français captifs ne sont pas stables. C'est à partir à peu près d'un vent de 8 mètres secondes, le ballon doit être frappé au sol. Donc vous avez le ballon qui est instable, il est agité dans l'air comme une bouée, et vous avez l'observateur qui est totalement secoué, qui a le mal de mer, le mal de l'air, et autrement il vomit et il ne peut plus remplir à bien sa mission. C'est-à-dire que déficient du matériel a des conséquences sur le côté opération. Et là il s'aperçoit que le ballon allemand, le Draken, lui, il a une forme fuselée, allongée, peut-être un peu dérivée des Zeppelins. Cette forme lui permet de mieux tenir dans l'atmosphère. Il n'est plus une bouée, par exemple, qui est agitée sur lui. Et là, le ballon allemand peut tenir une mission dans le vent jusqu'à 14 mètres secondes, quasiment le double des Français. Voilà. Et là, il se dit qu'il faut copier les Allemands, donc étant copies de l'ennemi pour pouvoir le battre, et il développe un ballon. Donc il décide de concevoir, de calculer, de dessiner un matériel nouveau, quasiment tout seul, à peu près à l'âge de 33 ans. Donc les ballons Kako, alors Albert Kako est donc éconnu et passé à postérité, entre autres, dans l'aéronautique grâce à son nom qui a été donné au ballon. Donc ça a prouvé le succès de ces avancées. Donc on peut se demander quelle avancée représente-t-il pour l'aérostation militaire française les ballons Kako. Alors d'abord la création, le ballon Kako, on l'appelait type L, parce qu'avant il y avait un ballon français développé pour une personne qui s'appelait type H. Donc il va dessiner une forme optimale de l'atterrage. Là, il a des pionniers, par exemple, il pense à la notion d'aérodynamisme. Donc il va en partie peut-être s'appuyer sur la structure qui a été développée par Gustave Eiffel, le constructeur bien connu pour la tour Eiffel, qui en 1909 crée une des premières souffleries aérodynamiques développées pour la locomotion aérienne qui est testée à Paris. Vous pouvez encore la visiter à Paris, à peu près une fois par mois, j'ai pu la visiter, c'est quand même assez impressionnant. Vous avez une navire qui est à peu près de 2 mètres, et vous avez un vent qui est à peu près envoyé jusqu'à 30 000 secondes, et c'est une installation centenaire. Donc là, vous avez une vue d'un ballon. Alors, le ballon est vu de l'avant, donc vous avez en dessous la nacelle, l'avant du ballon, et derrière, vous avez trois crêtes, ce sont les carènes du ballon. Donc ces trois stabilisateurs arrière sont gonflés par le vent, donc c'est un phénomène de vent relatif qui gonfle les carènes, et ça forme des gouvernails qui sont disposés à équidistance, à 120 degrés. Vous avez 360 degrés qui sont découpés. Et là, le ballon est dit autostable, donc il réussit à tenir dans l'atmosphère. Il est à peu près stable. Donc il s'oriente, il s'immobilise dans la direction du vent. Ainsi, il est moins secoué. Alors, ces dessins sont soumis, donc c'est une ébauche qui a été développée par le capitaine Albert Kako. Il envoie cette ébauche, ces dessins, à l'établissement de Chalet-le-Doubs pour pouvoir avoir le rapport. Et là, c'est le scepticisme. Donc, il se heurte un peu à un rejet de supérieurs militaires hiérarchiques. Il se demande quel est ce jeune impertinent d'une trentaine d'années qui force qu'évolutionner l'aérodynamique ou l'aérostation militaire. Donc, c'est le scepticisme. Et selon ces ballons, donc, il pense que le ballon peut être stable jusqu'à des vents de 25 mètres secondes, ce qui à l'époque apparaît totalement surréaliste. Ainsi, un équipage, un observateur français, pourrait mener sa mission à bien jusqu'à un vent de 90 mètres secondes. C'est presque un début de tempête, ce qui est totalement exceptionnel. Donc c'est un scepticisme, et on ne veut pas de son prototype. Alors là, vous avez un général de l'aéronautique militaire qui demande, qui donne l'ordre à ce qu'on développe ce ballon. Alors, donc, il y a un premier ballon qui est assemblé, et ce ballon est testé par Albert Capot sur le terrain pendant 6 mois, et on s'aperçoit que ce ballon s'use 2 fois moins vite que le ballon renard ou que le draken allemand. Donc, il y a la réussite du terrain, et Albert Capot est affecté à Chalais-Meudon pour pouvoir développer des ballons, donc, pour pouvoir les construire et vérifier leur bonne réalisation. Là, je me répète par rapport à mon PowerPoint. Voilà, donc, il est envoyé à Chalais-Meudon pour 1915. Donc là, vous avez une vue d'artiste du ballon Capo. Donc là, avec deux couleurs, donc la notion de camouflage. Donc là, c'est une vue latérale. Donc vous voyez deux gouvernes sur les trois. Et en dessous, vous avez la nacelle qui est reliée par un système de câbles ingénieux ou astucieux jusqu'au ballon. Alors la guerre des ballons, donc c'est assez peu connu. Alors, ils sont confiés à l'hydrogène, c'est un système différent que l'utilisation de ballons gonflés à air chaud comme les montgolfières. Là vous avez une vue donc, sur le terrain, vous avez des bonbonnes d'hydrogène qui sont acheminées à proximité du front pour pouvoir gonfler ces ballons. Alors le ballon captif a un avantage par rapport à l'avion, c'est qu'il peut être stable, il peut rester à un temps donné, pendant plusieurs heures, au même point, au niveau du fond, ce que ne peut pas faire un avion par définition. Donc le ballon captif présente des avantages, alors même si on pense qu'il est plus facile à abattre par l'adversaire, il reste d'une manière pérenne sur un site. Et pensez un peu aux satellites aujourd'hui, un satellite va pouvoir aller sur un site, mais de façon non permanente, il va pouvoir survoler plusieurs fois le même site. Alors vous avez une personne, un observateur, qui est emporté dans ce ballon captif, dans une nacelle, et il fait du renseignement. Donc il règle les tirs d'artillerie. Alors, le ballon est à peu près d'altitude d'1,5 km, donc 1500 mètres, et vous avez déjà, avec ce gain d'altitude, on peut localiser le point de chute des obus et ensuite transmettre l'information par un système optique, en lâchant des messages au niveau du sol qui doit être récupéré, et ensuite en utilisant la TSF à partir de 1916 avec la bataille de la Somme. Donc on règle les tirs d'artillerie et on surveille aussi un secteur du front. Donc on va essayer de mettre de façon à peu près régulière un ballon le long du front pour pouvoir repérer l'adversaire, essayer d'anticiper sur une attaque, sur la concentration de troupes adverses. S'il y a un tir d'artillerie, c'est que ça va être prémonitoire avant une attaque. Donc là, il y a vraiment la notion d'anticipation et l'importance du renseignement. Donc vous avez donc à droite la vue d'une nacelle avec l'observateur. Il est quasiment debout dans une nacelle en osier. Et, devant lui, il a une carte, une paire de jumelles. Je pense une boussole. Voilà. Et là, on est à partir de 1915, donc à partir de peu près du printemps 1915, les ballons vont être systématiquement équipés d'un parachute. Donc vous avez derrière un cylindre avec un parachute, et à l'arrière du dos de l'observateur, vous avez un harnais. Donc le harnais est monté sur l'observateur, il est relié par un filin au parachute. Alors, lorsqu'il voit un appareil qui s'approche du ballon, donc par exemple un appareil allemand qui va essayer de descendre le ballon, la frappe peut se passer en quelques secondes. Donc le ballon, l'adversaire va s'approcher, va tirer au départ avec des mitrailleuses, avec des balles qui vont essayer de perforer le ballon. Donc souvent ça va perforer le ballon, mais ça ne va pas le faire exploser. Donc vous avez des trous, l'hydrogène va un petit peu s'évacuer, mais le ballon ne va pas exploser. Ensuite, il va y avoir des balles explosives qui vont être développées pour pouvoir faire exploser le ballon. Et là, ça se passe en quelques secondes. Donc je crois que j'ai un film après qu'on pourra voir. Le ballon explose et l'aérostier a quelques secondes avant de pouvoir sauter. Donc là, c'est l'urgence. Il voit l'adversaire s'approcher, il saute, il tombe, et vous avez le parachute qui se développe et il atterrit au niveau du sol. Donc à partir de 1915, même si ce sont des marins et des pionniers qui utilisent pour la première fois des ballons. Et donc l'aérostier peut survivre, tandis que le pilote, lui, en avion, ne peut pas survivre, donc il n'a pas de parachute. À partir de 1917, les Allemands ont des parachutes. Et l'état-major français a refusé, car il estimait que si on avait un parachute, donc on avait une capacité de quitter le combat, et donc on risquait. Donc l'appareil était quasiment voué à la destruction, donc on perdait un appareil, et le pilote, maintenant, il pouvait amener un peu moins d'ardeur au combat. Ce qui fait que vous aviez peu de solutions. Alors soit vous surveillez, vous arrivez à atterrir, vous battez l'adversaire, soit vous pouvez mourir carbonisé, soit vous pouvez être éjecté de l'appareil, soit vous êtes écrasé. Donc certains ont dit que l'aviation était une armée de planqués. On estimait qu'il y avait à peu près 5500 personnels militaires de l'aviation qui sont morts pendant la guerre. Donc l'aviation était une arme assez réduite. c'est à peu près un taux de perte de 20%. Donc on est à peu près au même niveau que l'infanterie. Et à gauche, vous avez une vue d'un appareil photographique, donc la focale est à peu près de 60 mm, donc 30 cm, et on va développer des focales jusqu'à 1,20 m. Donc pour pouvoir avoir vraiment un matériel de qualité. Alors pour pouvoir déplacer, pour pouvoir ramener, malgré un vent violent ou faire descendre le ballon assez vite avant qu'il soit battu par l'adversaire, là on peut le protéger avec une DCA, une défense contre avion avec des canons qui sont dirigés à plus de 45 degrés, ce qui n'existait pas jusqu'en 14. Et on va aussi développer des treuils motorisés pour accélérer la descente. Et donc vous avez des treuils motorisés sur des véhicules automobiles, et Albert Caco va en développer un à partir de 1915. Donc après, vous allez voir un film, alors je pense que le son n'a pas parlé. Le son ne sera pas diffusé, mais je vais essayer de commenter en même temps. Voilà. Vu que c'est à partir de 1927 que le son est apparu, je vais être speaker. Donc là, vous avez une vue d'un ballon Caco, donc à peu près à partir de 1915-1916. Et là, vous avez une notion des dimensions, donc le ballon fait à peu près 20 mètres de long, c'est un cupage à peu près de 800 mètres cubes, et vous avez des fantassins au sol, donc le fantassin de la soirée arrondie à peu près 1,65 m. Donc ça donne une notion des dimensions. Alors, ça se passe, c'est pas grave. Bon, moi je respecterai les temps. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Donc c'est un succès international. Alors, le ballon type M d'Albert Caco est une réussite. À partir de 1916, il équipe à peu près toutes les aéronautiques militaires françaises. Donc, toutes les aérostations, c'est quand même assez réduit. Alors, il équipe aussi des marines de guerre françaises et aussi étrangères, donc britanniques et américaines à partir de 1917. Donc, Chalet-Meudon, qui au départ n'avait pas tenu compte des propositions d'Albert Caco, à partir de 1915, va construire des ballons. Donc, en 1915, c'est 7 ballons qui sont équipés. En 1917, donc c'est à peu près 10 fois plus. Et en 1918, à la fin de la guerre, vous avez 320 ballons qui sont fabriqués par Chalet-Meudon. Donc c'est vraiment un chiffre conséquent, et à la fin de la guerre, vous avez à peu près 1000 ballons Caco ont été développés. Alors Albert Caco n'a pas déposé de brevet, donc il a fait don à l'État. Il ne voulait pas s'enrichir sur une invention qu'il a conçue, développée pour la défense nationale. Voilà, donc vous avez une vue de Chalet-Meudon avec le hangar, je crois que c'est l'hangar Y. Alors c'est l'édifice le plus ancien au monde, donc il y a encore debout, qui a été développé dans les années 1880. Et donc en 1884, il a monté le ballon dirigeable de la France, qui est le premier ballon dirigeable au monde à avoir réussi à faire un circuit. Donc il est parti d'un point A, il a fait une boucle, il est revenu à peu près un kilomètre, il avait utilisé des moyens électriques. Et en 1900, vous avez donc le comte Ferdinand von Zeppelin, qui va faire un premier vol au-dessus de l'œil de Constance en 1900. Et là, vous avez donc les émissaires britanniques, donc on est en 16 et en 17, ils sont à l'intérieur de la structure d'un ballon. Donc vous avez le ballon qui est en caoutchouc, et vous avez une structure interne qui n'est pas rigide, mais avec des montants en caoutchouc un peu plus dur pour donner une certaine rigidité.
Il n'y a pas de problème là.
Non, vous avez juste à se projeter.
Il y a un peu d'ajout.
Alors il y a différentes variantes, hein, donc c'est comme pour l'Airbus, vous avez différentes variantes qui sont développées en fonction des besoins, car les caractéristiques sont différentes. Vous avez le type P qui s'adresse au navire de guerre, et là vous avez une photographie, on est en 1918, vous avez un navire américain avec un ballon captif qui est relié. Voilà, donc vous avez le vent relatif, le navire qui avance, qui tracte le ballon. Voilà. Alors pourquoi on utilise des ballons pour les navires, donc, on prend un cas d'altitude et ça permet de faire de l'observation. Pour les convois, on va essayer de localiser les sous-marins allemands, donc c'est les U-boat, donc c'est la guerre des convois, donc c'est la guerre totale, on essaye de battre l'adversaire d'un point de vue industriel. Et ça permet aussi de faire un repérage d'artillerie, donc vous avez des canons maritimes qui vont tirer pour essayer d'abattre l'adversaire. Encore plus tard, vous avez le type R qui est développé à la fin de la guerre, donc il est à peu près 28 mètres de long, c'est un cupage à peu près de 1000 mètres cubes, ça permet d'emporter une charge plus conséquente, deux nacelles avec deux personnes. Donc à peu près à chacun 65 kg, donc c'est plutôt des poids légers. Et en 1918, donc vous avez les Britanniques qui sont très intéressés, alors vous avez différentes attaques, alors c'est un peu de répétition avant la bataille d'Angleterre de 1940, vous avez à partir de 1915 des raids qui sont faits contre la capitale britannique, alors des raids de terreur pour essayer de faire peser au poids de la population civile le poids de la guerre, constituer une menace, ou le raid de terreur. donc avec des quotas et aussi avec des épins. Donc ça va être le cas contre Londres à partir de 1915, et ça va être le cas aussi contre Paris avec plutôt des épins. D'ailleurs, on va utiliser la tour Eiffel pour pouvoir faire, c'est le début de la guerre électronique, on va essayer de dévier, d'avoir un impact sur les émissions radio des Allemands pour pouvoir délocaliser les points de frappe des éclairs allemands. On va changer leur repère. D'ailleurs, ils vont réussir. Alors, vous avez des ballons qui sont utilisés pour faire de la défense passive. Donc, vous avez des ballons, alors, c'est vraiment une dimension très conséquente. Vous avez des filets qui font à peu près 300 mètres de large. Donc, des sortes de grandes lianes qui sont mises dans le ciel. Ainsi, donc, pour les raids nocturnes qui sont opérés de nuit avec des quotas allemands, ils vont se prendre en temps de le filet. Et pour pouvoir faire des frappes, ils vont devoir voler plus haut. Donc, s'ils volent plus haut, ils vont être moins précis pour les frapper. Donc, on ne sait pas si ça a vraiment eu un impact. Alors, c'était plutôt utilisé par les Anglais et un petit peu par les Français. Alors, à fin 17, début 1918, Albert Capot est vraiment une figure montante dans l'industrie aéronautique française. Il a joué un rôle efficient à ses chances. Donc, quel rôle joue Albert Capot dans la politique aéronautique française en 1918? Donc là, il est appelé par Georges Clemenceau. Alors, on doit dire que Clemenceau et pas Clemenceau. On doit dire Breguet et pas Breguet, il n'y a pas d'accent. Donc Clemenceau est arrivé au pouvoir et a été nommé en novembre 1917 les chefs du gouvernement. Et sa mission, c'est « je fais la guerre ». Voilà. Donc il doit mener le combat jusqu'à la fin. Il ne doit pas y avoir de paix, c'est pas. Et donc il nomme Albert Capot le 11 janvier 1918 à un poste imminent dans le service aéronautique. Albert Capot a 36 ans. Donc de grandes capacités, mais ces grandes capacités impliquent de grandes responsabilités. Et on lui donne une mission, il faut dynamiser l'effort de rénovation technique et de production des avions, alors ceux qui ont des missions offensives, des avions de chasse et de bombardement. Donc cet effort a été lancé en 1917. Alors 17-18, c'est vraiment les années de développement de l'aéronautique, y compris par rapport au nombre d'appareils produits. Et en 1917, les efforts ont commencé, mais début 1918, ils ne sont pas encore vraiment efficients. Voilà. Donc on lui donne une mission redoutable, il doit permettre... à l'aviation française de disposer des matériels participant à la victoire finale. Donc il est à la tête de la section technique aéronautique. Alors bon, là c'est un point un peu précis. Elle est détachée à partir de 1916 du service de fabrication aéronautique dont on a parlé de Gaëtan Siapo. Donc là, le service de section aéronautique assure la direction générale des fabrications confiées à l'industrie privée. L'armée ne fabrique pas elle-même d'avions. Ces avions sont été fabriqués à la suite d'une série d'une à partir de 1909, des personnes comme Louis qui venaient d'autres domaines. Et donc l'État, le gouvernement, essaie de dynamiser tout ceci. Donc vous avez une production de masse, parce que vous avez par exemple ici des entoileuses, on est à partir de 1916 dans une usine, à l'arrière, on essaie d'être loin des bombardements adverses. Vous avez la structure de l'appareil, donc c'est un appareil qui est en toile et en bois avec un petit peu de métal. Alors c'est une production en partie faite effectivement par des ouvrières, et là c'est une affiche de 1918, donc de recrutement. Alors par exemple aux États-Unis vous avez l'oncle Sam avec Aventure, et là c'est en 1918, on fait appel aux Britanniques, aux Anglaises qui veulent fabriquer, participer à l'effort de guerre avec la construction d'appareils pour la maintenance et l'entraînement. Donc la mission d'Albert Capot est importante, elle concerne l'industrie aéronautique française et aussi celle des aviés. Parce que l'aviation française de 1909 à 1918, alors sans être cocardier ou transier, est la première aviation au monde. Donc on fabrique en autosuffisance pour la France, donc quasiment 100 000 moteurs et à peu près 50 000 appareils, donc c'est totalement surréaliste aujourd'hui. Alors il faut à peu près 6 mois pour étudier et construire un prototype, il faut de nouveau 6 mois pour les essayer et être mis au point, donc un an, et après il faut 3 mois pour appeler les usines et lancer le matériel. Donc à peu près tous les 1 an et demi, vous avez une nouvelle génération d'avions. Dans les années 50, par exemple, ma thèse porte sur l'aviation française et l'innovation technologique de 1945 à 1966. Tous les 4 ans, on avait une nouvelle génération d'avions, et aujourd'hui, c'est à peu près tous les 20 ans. Donc, forcément, les budgets, les missions, les moyens, le contexte sont totalement différents. Donc le FAA est divisé en différents services, donc vous avez la motorisation, les cellules, les hélices. Bon, donc vous avez une spécialisation, comme pour les missions, pour pouvoir avoir un appareil... De qualité, et là par exemple vous avez les hélices. Alors Albert Capot donc, dirige d'un point de vue aéronautique pour l'industrie et il sert d'interface avec un homme politique, donc c'est Jacques Louis Duménil qui a été nommé les sous-secrétaires d'État à l'aéronautique, militaire et maritime. C'est un poste politique qui a été créé en 1916. Donc vous avez toutes les semaines Georges Clemenceau qui a un rendez-vous avec Albert Caquot, et ensuite Albert Caquot, avec M. Duménil, et M. Duménil, tous les mois, a un rendez-vous avec les responsables aéronautiques et les chefs industriels. Donc vous avez une estrade un peu comme ici. Vous avez M. Duménil qui est là, et chaque mois, il demande aux industriels, il compare les chiffres qu'ils lui ont promis de fabrication, et les compare avec la réalité. Voilà. Et donc, par exemple, moi, je travaille sur une graphie de leur hypothèse, et leur hypothèse, donc, à 26 ans à l'époque, il y assistait parce qu'il y a 25-26 ans, et il est impressionné par ses réunions parce que
raisonnable.
Il faut pouvoir tenir ses engagements. Et là, vous avez Albert Caquot qui réussit à redresser la situation en quelques mois. Alors bon, certains l'ont présenté comme un homme providentiel, qui avait vraiment de grandes capacités. Alors, il a effectivement des capacités, il a un regard neuf, mais il bénéficie aussi d'un contexte favorable. Donc, alors j'ai pu écouter un témoignage d'Albert Caquot de 1975. Alors Albert Caquot, à ce moment-là, a 95 ans, et il meurt un mois plus tard. Donc vous avez, à partir de 1975, l'armée de l'air était pionnière, vous avez le service historique de l'armée de l'air, maintenant n'existe plus. Et maintenant, vous avez le service de la défense qui est à Vincennes. Et à partir de 1975, ils ont développé les témoignages oraux. Parce que en 1940, vous avez de nombreuses archives qui ont été prises par les Allemands. Alors l'armée de terre a conservé ses archives dans ses casemates, donc elles n'ont pas été prises. Et l'armée de l'air les a mises dans des camions. Les camions ont été pris par les Allemands, les archives ont été détruites. Ensuite, ces archives ont été amenées à Berlin. Et lorsque Berlin a été pris par les Russes, les Soviétiques, ont pris ces archives. Donc on a encore des archives qui sont à Moscou. Donc il n'y a plus beaucoup d'archives avant 1940. Donc on a essayé de compenser avec des témoignages oraux dans les années 70, mais alors les survivants de cette époque. Donc j'ai pu écouter son témoignage quelques mois avant sa mort. Donc il bénéficie de l'efficacité de l'industrie qui est arrivée à un point efficace. Il arrive à bien animer et à faire une bonne coopération avec les services techniques, parce qu'il y a une certaine pression du gouvernement. Il y a les connaissances techniques d'Albert Caquot, donc qui est ingénieur. Il arrive à bien analyser les éléments du problème et à les résoudre, parfois en innovant, par exemple, pour la métallurgie, et aussi un talent pour concevoir et faire produire l'organisation réactive. Voilà. Au niveau du haut-parleur, vous avez son témoignage, mais je voulais résumer. Dans ce témoignage, dans cet extrait, il dit l'importance de bien s'entourer d'hommes compétents, d'avoir des équipes réduites dans lesquelles on peut avoir confiance. Donc, être chef, c'est savoir déléguer. Je crois pas. Donc là, vous avez une artiste de 1918, où vous avez une production en chaîne. En 1914, c'est une production artisanale, et en 1718, c'est une production efficace. Donc un tableau de production qui atteint un pic en 1718. Donc en 1914, on avait une centaine d'avions qui étaient mobilisables. Alors, vous voyez, en août 14, on n'est qu'à 50 appareils, on essaie d'en développer. Alors, la difficulté, c'est que les usines n'existent pas vraiment, c'est des initiatives privées, donc ensuite, il faut développer. Il faut investir pour pouvoir construire de plus grandes usines. Ensuite, il faut reculer et faire reculer ces usines pour pas qu'elles soient victimes de bombardements ou d'annexions des frontières. Et à partir de 1718, vous voyez, les productions sont totalement phénoménales. En France, aujourd'hui, c'est plus tout à fait. Enfin, c'est plus peur. Même si le Rafale a fait des ventes à l'étranger, et peut-être on va vendre aux Indiens, le contrat n'est pas encore ferme, peut-être qu'il faudra une dizaine d'années. Il faudra aussi sûrement peut-être des besoins. Mais aujourd'hui, on fabrique 11 rafales par an, donc c'est un par mois. La fabrication est assez réduite, mais un rafale aujourd'hui, c'est à peu près 150 millions d'euros, et toute sa durée de vie. Et pendant la première mondiale, un avion de combat pour l'espace, c'était à peu près 40 000 euros. Donc, on multiplie les 40 000 euros avec à peu près 10 fois plus, c'est à peu près 400 000. C'est 40 000 francs or de l'époque, c'est à peu près 400 000 euros aujourd'hui. Donc par rapport à un rafale qui fait 150 millions, on voit que le prix est pas du bien. Donc après 1918, en 1919, Albert Caquot va encore de nouvelles visionnaires, et en 1919, il est le père fondateur du musée de l'air, donc ça s'appelle pas encore le musée de l'air d'espace. Il parle de la création d'un conservatoire, et donc en 2019, ça sera le centenaire du premier musée de l'air et de l'espace qui a été constitué au monde. Donc là, c'est une grande joie d'avoir pu voir Aeroscopia à Toulouse, un beau musée moderne, avec des moyens et propres, ce qui n'est pas toujours le cas, hélas, aujourd'hui. Donc j'ai un... Donc le texte en 1919, c'est le texte pour la création du futur musée de l'air. Albert Caquot explique pourquoi c'est important, y compris pour la formation des ingénieurs. Donc à la lumière du passé, le présent s'éclaire. Donc oubliez l'évolution suivie depuis le jour où le premier homme vaincu les lois de la pesanteur par l'utilisation rationnelle de la vitesse, saurait commettre un crime vis-à-vis de nos descendants, un crime de bon compte de nos réussites, autant que de nos insuccès. La formation des ingénieurs d'une époque à sa base dans la connaissance des travaux de leurs aînés, nous devons mettre à même les ingénieurs d'aérotique de l'avenir de prendre au contact avec la réalisation aérotique actuelle les leçons les plus fructueuses pour leur éducation. Nous avons donc le devoir impérieux de réunir les matériaux actuellement épars qui sont les témoins de nos efforts. Vous avez présenté de faire texte, la première phrase est assez longue, tout est dit, et tout est reçu de mécanique d'étude, donc c'est totalement visionnaire pour pouvoir permettre à l'aéronautique française de redevenir première au monde. Donc il y aura des développements qui seront faits, mais c'est en 39-40, l'aviation française ne sera pas la première. Alors, en 1928, il est le premier à occuper le poste de ministère de l'Air. Au niveau du poste de ministère de l'Air, il est le premier à être ministre de l'Air, et il crée le super-héros moderne, donc c'est l'École nationale supérieure de l'aéronautique, même si son ancêtre a été fait en 1900. Voilà. Alors dans les années 30, Tartako va de nouveau être nommé ministre de l'Air, ensuite il va démissionner en 40, et donc il passe à la postérité. Alors il meurt dans les années 70, donc un âge conséquent, 95 ans, donc il était considéré comme le plus grand ingénieur de France, et donc après sa mort, vous avez un timbre qui est créé en 2001. Donc vous avez le ballon Caco, vous avez l'usine marémotrice de la Rance, et sur le timbre, vous avez une vue d'un pont, je ne me trompe pas dans les termes techniques, vous avez une vue du pont de la Caille, c'est un pont qui est au nord d'Annecy, avec un
large
de 140 mètres de portée. Voilà, donc il passe à la postérité. Et par rapport donc, à la région toulousaine, vous avez donc à proximité, vous avez le terrain de Balma, et à partir de 1923, vous avez une compagnie d'aérostés qui s'installe. Cette compagnie devient en 34, donc création d'armée d'air, devient la 53e demi-brigade d'aérostation. Donc vous avez un grand hangar rigide, un grand hangar rigide pour pouvoir accueillir des ballons, avec une porte couille de centre. En 1958, vous avez donc la base aérienne 280, Toulouse-Piriton de Balma, qui va ensuite disparaître. Et là, vous avez les plus récentes de ce terrain qui sont nommées le ballon. Merci pour votre attention.